les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est
une
parole,
c'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour, nous nous retrouvons pour une troisième émission autour du concept de liberté, donc après un peu un déblayage conceptuel et historique, puis une analyse un peu de la notion et des illusions que peut entraîner la notion de libre arbitre. Nous allons aujourd'hui donc enchaîner sur une vision, enfin, on pourrait dire la liberté aujourd'hui, ou comment on conçoit la liberté dans le monde actuel, et nous pouvons dégager deux visions qui posent des problèmes politiques dans le monde actuel sur ce que la doxa, l'opinion commune, voit dans dans l'idée de liberté. Et une première idée qui fait d'ailleurs le lien, la transition avec l'analyse de la notion de libre arbitre qu'on avait fait dans la dernière émission, qui est que quelque part chacun mérite le sort qui lui est donné dans la société, que ça soit le prisonnier dans la prison, le pauvre qui ne gagne pas assez d'argent, ou etc. C'est-à-dire que chacun mérite sa situation du fait justement qu'il a un libre arbitre et qu'il est responsable de ce qu'il fait, et que bon, et on peut voir toutes les problèmes que cela entraîne. Et d'un autre côté, il y a une valorisation de l'idée de l'auto-entreprise individuelle, du fait que chacun construit son propre destin et entrepreneur de sa propre vie, et que sans doute ces deux logiques se rejoignent. Donc peut-être, Monique, nous pouvons commencer par le premier point.
Oui, alors c'est vrai qu'on pense aujourd'hui donc l'individu libre. Alors dans l'histoire, il y a un mouvement structurel d'individuation, hein, tel qu'aujourd'hui donc l'individu est en charge de son existence, est en charge de son destin, est en charge donc de la conduite de sa vie. Mais ce mouvement d'individuation, il rejoint aussi un idéal romantique, hein, de l'affirmation du monde. Moi, de l'affirmation de l'ego, de l'affirmation du sujet dans son existence, tel que il va pouvoir faire de son existence comme une œuvre d'art, c'est-à-dire s'accomplir en sa vie en décidant donc de la trajectoire ou des trajectoires donc de celle-ci, en s'inscrivant dans une multiplicité d'expériences, ces expériences formant comme le matériau donc de cette existence. Et nous pensons, comme nous sommes pris dans cet idéal donc romantique de réalisation de soi, nous pensons donc que nous décidons de notre vie, c'est-à-dire que nous sommes libres de la conduire, et que c'est en tant qu'agent libre que nous déployons donc cette existence, c'est-à-dire que nous nous inscrivons comme ça dans des expériences diverses qui nous façonnent un peu, oui, à la manière d'une œuvre d'art.
Donc si je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'entends dans ton propos le fait que cette expérience telle qu'elle est vécue ne correspond pas à la réalité de la liberté qui est accordée à chacun de ces agents qui se perçoit lui-même comme libre.
Ou peut-être, dans ce que tu dis, Monique, il me semble qu'on
on pose à qui que nous serions des sujets en fait de la liberté au sens de maître de notre existence, avec une capacité de choix permanente, avec une possibilité de commencer quelque chose absolument, c'est-à-dire par soi-même, et que tout ça fait fond sur l'idée que nous serions finalement toujours transparents à nous-mêmes, au sens où nous serions capables de maîtriser absolument l'univers dans lequel on arrive, de pouvoir agir sur lui, et donc tout ce que nous faisons est lié à notre volonté. En fait, on aboutit à un sujet tout seul, presque ex nihilo, et qui serait détaché d'un contexte et qui pourrait décider de faire telles études.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un sujet indéfiniment capable de se définir lui-même. Et donc, d'être cause par lui-même de son existence, de sa trajectoire, de sa destinée. Et donc, c'est précisément ce statut de l'agent libre que nous voulions aussi questionner, en cette mesure qu'il renverrait à une ignorance des déterminations qui pèsent justement sur notre existence.
Mais en même temps, on a l'impression qu'en le décrivant ou en le dénonçant, on dénonce aussi un idéal qu'on a cultivé très longtemps auparavant. Enfin, j'ai souvenir que l'idéal de la civilisation convergeait vers l'idée d'un individu qui deviendrait précisément par sa connaissance, son éducation et son développement capable d'agir librement, de prendre des initiatives. Est-ce que c'est ça l'homme moderne dont nous parlons ?
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut faire une différence entre l'autonomie ou l'autonomie véritable qui serait liée à une formation intellectuelle et une capacité, j'entends par là non pas une culture érudite, mais une capacité donc de revenir de manière réflexive sur ses jugements pour les interroger et les interroger indéfiniment, à savoir est-ce que ce que je pense est juste, est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense, et puis une autre forme de liberté ou d'agent libre qui serait un agent capable indéfiniment de s'inventer lui-même et donc de se définir et de commencer toujours à être autrement qu'il n'était, parce que cette deuxième forme au bout du compte de la liberté est parfaitement conciliable avec des formes de servitude, est parfaitement conciliable avec une obéissance à une tradition, est parfaitement conciliable avec une obéissance à un maître, même avec un esclavage consenti. Enfin, on peut penser tout autant à Apollon, la servitude sexuelle comme la servitude religieuse, l'obéissance donc à une tradition religieuse.
Oui, on peut même prendre des faits de société préoccupants. Enfin, c'est pas comme la condition du migrant, où tout à coup, si on est dans le mythe comme ça d'une liberté absolue, avec une responsabilité absolue, avec où finalement la condition du migrant ne regarde que le migrant, en fait. Et tout la liberté comme maîtrise simplement de son individualité. Peut engager quelque chose de l'ordre de l'indifférence à l'autre. Et au fond, Monique, je trouve que ce que tu dis invite à peut-être à puiser dans d'autres références et peut-être à questionner la liberté du point de vue de l'altérité, de tenir compte de l'autre, de sa finitude et de ses déterminations qu'on pourrait peut-être expliquer.
Moi, ce que je remarque, c'est que, d'une part, ce que dit Monique, c'est très intéressant de voir que, d'un côté, cette idéologie du choix individuel est tout à fait compatible avec la soumission, une soumission apparemment volontaire, justement. C'est ça qui est à des traditions ou à des, à des aliénations ou à des dominations diverses. D'autre part, je pense que le problème, c'est un rapport au social et à la société qui est effacée dans l'analyse des comportements humains. par exemple, le fait qu'on peut remarquer que les décisions politiques, les analyses qu'on voit dans les médias, enfin, ce n'est pas des analyses d'ailleurs, mais les discours dominants, que ce soit au niveau de l'opinion publique ou au niveau des pouvoirs, ne tiennent jamais compte des données des sciences humaines et des sciences sociales. C'est-à-dire que justement, on avait articulé, à un moment donné, Ronald, dans une émission précédente, tu disais qu'à un moment donné, la question de la vérité a été laissée de côté au profit de la question de la liberté dans l'histoire de la philosophie. Et je pense que justement, il faut peut-être revenir à la question de la vérité pour rétablir le vrai sens de la liberté. C'est-à-dire que la vérité, c'est statistiquement, analytiquement, scientifiquement, comment peuvent s'analyser les comportements des êtres humains. Or ça, ça n'est jamais mis. C'est-à-dire que En mettant le centre du débat sur, la focalisation sur le choix individuel, on oublie tout ce qui fait que l'individu est soumis à un ensemble de déterminisme, de poids qui est lié à la société, et du coup la liberté est une pure illusion à partir du moment où elle est sortie du contexte social.
Oui, je te suis, Louisa, mais avec un bémol qui consiste à dire que la vérité qui est établie par les sciences humaines concernant justement l'homme n'est pas de même nature que celle que l'on établit dans le cadre des sciences de la nature. Et par conséquent, on ne peut pas fonder une conception de la liberté sur des pures données objectives et des prélèvements d'indices que des prétendues sciences comme la sociologie ou la psychologie mettraient en équation, puisque ces équations sont toujours dépendantes d'interprétations préalables. Donc moi je pense que cette liberté doit être bien située entre cette objectivité produite par les sciences humaines et cette expérience subjective qui est celle de l'individu, qui évidemment doit tenir compte des premières. Mais si on la réduit à la première ou à la deuxième seulement, elle est déformée, elle est quelque part en danger.
Je peux revenir juste un petit cran auparavant, antécédent, pour souligner que c'est très utile de considérer que les sujets sont des agents libres dans une société, parce que ça augmente leur efficacité, d'une part, puisqu'ils ont la charge créative, dit-on, de leur activité, et puis aussi parce que ça permet de leur imputer l'entière responsabilité, donc la culpabilité de leurs actes, dès lors qu'ils ne remplissent pas les objectifs qui leur sont assignés.
Peut-être deux remarques. Effectivement, je pense que c'est une idée utile, cette possibilité d'un sujet absolu, mais aussi du point de vue finalement d'un système donné ou des élites, puisque si effectivement je suis libre absolument, je suis donc responsable de tout ce que je fais, donc là on a évoqué des vies comme ça difficiles comme les migrants, mais du coup les élites peuvent aussi trouver une justification à leur pouvoir. Tout c'est lié à leur force de volonté, alors qu'on sait bien que c'est immédiatement lié à des positionnements sociaux qui font qu'on a accès effectivement à des ressources de la société qui vont mener à des postes de pouvoir ou même à des vies protégées. La deuxième chose, c'est, il me semble intéressant aussi, je reviens à Kant, où dans la critique de la raison pure, à un moment donné, il dit effectivement qu'il faut qu'on arrive à entendre et que déterminisme et liberté ne sont pas contradictoires, que ce sont deux notions qui peuvent fonctionner ensemble et que ça fait partie encore de cette étrange chose que nous sommes, où la contradiction est logée dans l'être humain et on est à la fois libre et déterminé. Et il me semble qu'on peut interpréter ça dans le sens où être responsable d'eux, c'est peut-être, si on renoue avec l'étymologie, pouvoir répondre de ce que je fais. Et cette réponse-là, elle est à chercher en soi, mais finalement pas tellement. Elle est à chercher aussi dans l'extériorité d'un monde. Et quand je réponds de ce que je fais, je réponds aussi avec toute tous ces échecs, toutes ces impossibilités, tous ces murs, tous ces obstacles. Et c'est une invitation finalement à les transformer. Enfin, ce que je veux dire, ce que je cherche à dire peut-être plus simplement, c'est que le détenu, quand il est coupable d'avoir, quand il est enfermé, pour avoir commis un acte contraire à la loi, on lui demande même pas finalement tellement de répondre de ce qu'il a fait. Il est déjà jugé dans sa seule culpabilité. Et peut-être que je fais référence ici à quand nous faisons des ateliers en prison, où beaucoup de femmes détenues disent, mais on n'a même pas pu dire. Et là, dire pourquoi on en est là, pourquoi les juges n'écoutent plus, parce que les jugements sont extrêmement hâtifs, rapides. Dans l'acte de se dire, c'est se dire finalement ailleurs que comme sujet absolument déterminé ou absolument libre. Mais comment tout ça, ça se... Comment ça s'articule et comment ça, c'est complexe.
Alors il y a une réalité de l'incarcération, c'est-à-dire la situation carcérale qui est aussi que la prison est un petit peu le miroir des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le prisonnier est un agent libre, tel que c'est sa liberté qui l'a conduit à commettre l'acte qui... l'a fait basculer en prison. En réalité, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit que 79% de la population carcérale est issue de l'immigration à moins de 30 ans, qui a une surreprésentation des ouvriers ou des catégories donc sans profession. Et donc on entend là aussi que ce qui se joue finalement dans cette situation, c'est une société punitive, c'est-à-dire que on utilise la liberté pour punir, encore une fois, c'est-à-dire pour trouver coupable. Alors l'expression société punitive est de Michel Foucault. Et elle renvoie à l'idée d'une guerre civile, justement, entre des classes aux intérêts tout à fait divergents et à une société où les lois sont faites par les gens auxquels elles ne sont pas destinées. Et les lois, donc, sont faites pour être appliquées à ceux qui ne les ont pas faites. Et donc, il y a une dimension hautement répressive de la législation. Mais cette dimension répressive est occultée, me semble-t-il, ou masquée justement par la mise au premier plan d'une liberté qui serait d'abord une liberté individuelle.
Oui, Didier Fassin raconte un exemple qui a beaucoup réfléchi à la condition du geste d'incarcérer. Il raconte que lors d'un procès, un jeune avait une promesse d'embauche, donc il arrive au jugement avec une promesse d'embauche, sa femme est enceinte, et à ce moment-là, le juge dit « Et en plus, vous avez une promesse d'embauche, et en plus, vous attendez un enfant, vous allez être père ». Et il lui rajoute 6 mois après d'emprisonnement ferme. Et ce que dit Fassin, c'est que pour lui, c'est un tournant très 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 récent. C'est-à-dire que si on pose que on ne naît pas libre, mais qu'on le devient, et que devenir libre suppose des choses qui le rendent possible. En ce moment, tout ce qui a rapport avec justement la liberté comme libération, est empêché par cette idée que en plus tu te rends pas compte que tu avais ça, mais tu es encore plus coupable. Hein, donc, on perd en liberté.
Ben, je crois que là, on est au centre du problème. C'est-à-dire que la liberté, comme tu dis, est une libération et que cette libération est forcément dans un rapport au social et dans un rapport collectif. Il n'y a pas de libération qui puisse se faire de manière purement individuelle. Et toute cette idéologie du libre arbitre individuel qui est mise en avant, moi, je trouve que c'est paradoxal. C'est une façon d'interpréter. Je veux dire par là que quand on fait, par exemple, en tant que prof de philo, quand on fait des cours et qu'on utilise Sartre dans la notion de la liberté, ça marche très bien, Sartre, justement, parce que ça va tout à fait dans cette logique que l'homme est ce qu'il se fait, l'homme est condamné à être libre, et qui est donc cette vision de l'individu qui se définit lui-même à partir de ses actes. En entièrement libre et qu'il est donc entièrement responsable. Et ce qui est intéressant, donc, c'est cette idée que celui qui nie cette liberté est pour Sartre quelqu'un qui agit de mauvaise foi, qui a un comportement de mauvaise foi. Mais quelque part, cette responsabilisation individuelle est une manière d'agir par mauvaise foi concernant la responsabilité sociale et politique. Hein, parce que c'est une manière justement de ne pas envisager le fait que nous sommes responsables aussi des autres et dans notre rapport aux autres. Tu disais par rapport aux migrants, par exemple, voilà, le fait que si c'est le migrant qui est lui-même tout seul responsable, ça veut dire que nous ne sommes pas responsables, que le politique n'est pas responsable. Et donc finalement, ce culte de la liberté individuelle est un acte de mauvaise foi concernant la responsabilité collective et politique.
Oui, moi, je voulais dire que sur le plan de la description de l'expérience actuelle de la liberté, il y a un autre problème qui me paraît surgir et qui n'est pas sans rapport avec les précédents. C'est que les individus se perçoivent comme des agents impuissants par rapport aux grands décideurs et aux grandes forces qui agissent dans le monde, et ils se sentent tout à fait privés de liberté sur ce plan-là, alors qu'ils sont pris à partie par les institutions, comme la prison, et d'autres que vous venez d'évoquer, comme des individus pleinement responsables de ce qu'ils font. Donc, il me semble qu'il y a un paradoxe ou une sorte de tiraillement entre ces deux conceptions, ces deux expériences de la liberté. Je me demande si, Monique, tu ne faisais pas allusion à une nouvelle forme d'instrumentalisation de la liberté en tant qu'instrument idéologique dont certains feraient les frais et qui, en quelque sorte, mettraient un peu de lumière sur ce paradoxe. Est-ce que finalement, il reste des marges de liberté individuelle dans le monde tel qu'il est déterminé, ou est-ce que c'est encore, ou c'est l'ultime figure d'une idéologie qui instrumentalise les individus pour les dominer ?
Alors, ce que tu dis est très réel, c'est-à-dire cette contradiction entre l'agent absolument libre et puis une réalité qui nous condamnerait incessamment à l'impuissance. Il me semble que la liberté à trouver ou à retrouver, elle est du côté de l'autonomie. C'est-à-dire, donc, un individu qui serait autonome est impossible finalement à penser hors d'une société, donc, d'individus libres. C'est-à-dire, hors d'une, comment dire, il ne faut pas distinguer l'individu ou opposer l'individu et la société. C'est-à-dire que l'individu réellement libre, réellement autonome, il existe dans une société, donc, autonome. C'est-à-dire, donc, qui pense son organisation, qui réfléchit à ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire. Mais
donc pour déjouer le piège de la liberté,
il faut revenir à une liberté politique.
Il faut revenir
politique.
À des formes collectives de l'exercice de la liberté.
Démocratie. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
Ou peut-être essayer de reposer qu'il n'y a pas de liberté du tout sans liberté politique, en fait, que c'est la condition de toutes nos libertés. Moi, peut-être, je maintiens que l'idée de construire sa vie comme une œuvre d'art, bon, c'est une analogie qui a une certaine valeur, mais ce qui devient compliqué, c'est de dire que c'est le sens ultime de la liberté. Notre liberté est fondamentalement liée à toutes celles des autres, parce que l'autre est la condition de ma liberté.
Et c'est en rapport à ce que tu disais, Céline, par rapport à l'exemple de Fassin, c'est-à-dire que ce qu'on enlève, en enlevant la parole, on enlève la démocratie. C'est-à-dire que si les personnes ne peuvent pas débattre ensemble, discuter ensemble de leur avenir, c'est ça la liberté, hein, c'est la parole commune, hein, une parole qui permette d'établir les critères de l'action commune.
Hein. Et du coup, est-ce qu'on pourrait décrire des formes contemporaines, non pas originales, mais qui ont émergé de cette pratique de la liberté qui prend sens dans ce cadre ?
Oui, ce qu'on voit aussi, enfin, oui, bien sûr, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on a dans la conversion religieuse comme un témoignage d'une liberté sous cette forme donc d'un engagement existentiel dont nous parlions un petit peu plus haut, à savoir aujourd'hui le converti se pense libre, il pense que sa conversion religieuse donc est un acte de liberté, où on voit bien hein, que cette liberté-là est apolitique et n'a rien à voir avec la prise en main d'un destin social ou d'un avenir politique. Ouais.
Ou peut-être aussi la réussite professionnelle érigée en normes supérieures relève aussi de cette illusion d'une liberté existentielle, individuelle. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait chercher d'autres des formes de liberté qui seraient cette fois-ci positives, en tout cas pour nous.
Ben là, il me semble évident que des formes d'existence individuelle sur le plan collectif, l'affichage de soi sur les réseaux sociaux et tout ce qui concerne cette réalité, on va dire, de communication virtuelle qui n'est justement pas une communication, exprime bien le paradoxe de cette liberté, de ces formes de liberté conçues comme extrêmes, mais en fait limitées à des formes assez illusoires dans la pratique de la liberté de se montrer, de s'afficher et de construire sa vie comme une œuvre d'art, comme tu le disais à l'instant, Céline.
Dans la conversion, on n'est pas simplement dans l'affichage. Hein. Il s'agirait donc de se transformer soi-même. Et donc, dans cette vision donc, contemporaine de la liberté, mais que nous avons critiquée hein, dans sa dimension à politique ou encore à sociale, il s'agit bien de cela, à savoir de s'inventer, de se transformer soi-même, de se définir, mais de faire somme toute un salut qui ne concerne que soi et qui est parfaitement indifférent et à la vérité et à la justice.
Et bon, ce qui peut être aussi contrebalancé, enfin, de certaines actions, il me semble, récentes de nos sociétés, je crois, avec une conscience sur l'écologie, avec... Enfin, j'essaye de chercher où il y aurait cette liberté politique qu'on cherche, parce qu'effectivement, on est quand même dépossédé en ce moment hein, de l'action politique, peut-être dans ses formes classiques. Voilà, donc il me semble.
Je crois qu'il y a peut-être un élément qui. Un concept qu'on n'a pas abordé, mais qui est le rapport entre la liberté et le bonheur, peut-être. C'est-à-dire que derrière ce désir de. Cette illusion de la liberté, il y a aussi l'illusion d'un certain bonheur. Or, ce qui se passe, c'est que le bonheur, au bout d'un moment, on ne le ressent pas. Et que peut-être que, justement, les gens qui vont dans cette idéologie, au bout d'un moment, ils ressentent qu'ils sont malheureux. Et que c'est ce ressentir malheureux qui fait qu'il y a des changements. Par exemple, il y a des gens qui ont voulu faire des études pour devenir, trader, une école de commerce hyper réputée et tout, et puis qui, au bout d'un moment, ils en ont marre et qui créent. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être le jeu se fait sur le fait qu'on ne peut pas être heureux de cette manière-là.
Oui. Tu as raison, et je pense qu'il y a d'autres façons aussi d'analyser cette liberté contemporaine, en l'analysant par rapport à ce qui, finalement, la contredit. Hein. Je pensais, mais on n'a pas le temps d'aborder ça aujourd'hui, à ce qui concernait toutes les questions de la traçabilité et de la privation de la liberté privée au moyen des objets technologiques hein, qui finalement sont très intrusifs et qui menacent cette liberté. Enfin, on les désigne comme liberticides. On l'abordera peut-être une prochaine fois. Pour aujourd'hui, je pense que voilà, nous avons épuisé notre temps et nous vous saluons à nouveau.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver... La perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes publics. Thank you.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.